La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Personne et liberté. Personne et liberté. Vous avez peut-être entendu la semaine dernière apparaître le mot famille, le mot corps politique. Et vous avez peut-être eu une réminiscence de Hegel. Hegel, dans la philosophie, dans les principes de la philosophie du droit, propose une tripartition entre la famille, la société civile et l'État. Et Maritain va s'opposer à cette vision hegelienne. Alors, nous allons articuler un petit peu la personne et la liberté, et ensuite la dialectique. Parce que c'est à partir d'une vision que Maritain considère comme fausse de la dialectique hegelienne qu'il va proposer un autre modèle. Vous l'avez compris, la référence à Bergson permet à Maritain d'intégrer les valeurs évangéliques comme un ferment qui annonce et qui fait l'essentialité, on va dire, de la démocratie. Alors revenons sur personne et liberté en donnant la parole à nouveau à Henri Barthes dans son écrit « La politique selon Jacques Maritain ». Et cette synthèse nous permet d'aller droit au but. Qu'est-ce que la personne pour Jacques Maritain? Elle est caractérisée par l'indépendance ou l'autonomie. Mais Maritain tout de suite précise, il ne s'agit pas de dire n'importe quelle indépendance et n'importe quelle autonomie. Ainsi présente Henri Barthes cette différence entre autonomie et indépendance. Ce n'est pas l'indépendance d'un oiseau qui vole librement dans les airs. C'est l'indépendance d'un être spirituel, c'est-à-dire intelligent, qui décide de son destin. Jusqu'ici, ça rejoint Hegel avec l'importance donnée à la volonté. Le corps, pour Hegel, prendra un moment important par rapport à la volonté. Hegel dira que l'être humain a une volonté sur son corps. Il peut s'automutiler, il peut se suicider. Et donc, garder l'intégrité du corps est un acte de volonté. À la racine de la liberté humaine, il y a donc la capacité de choisir, ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est fondé dans la raison. C'est parce qu'il comprend que l'homme ne suit pas infailliblement ses instincts. Il discerne, il préfère, il se détermine. Même s'il se détermine à ce qu'il sait mauvais, moralement mauvais, il est encore libre en cela. Inutile de réécrire le chapitre de la Genèse où Adam et Ève sont laissés face à leur liberté parce qu'il y a justement un interdit. Vous ne mangerez pas de cet arbre-ci. Cependant, le libre arbitre n'est que la condition de la liberté. Il n'en est nullement le terme. On ne choisit pas pour choisir. C'est là une grande erreur qui a coûté cher au libéralisme individualiste du XIXe siècle. On croyait alors que le rôle de la société politique était d'associer au mieux une collection d'individus qui cherchaient à sauver chacun leur vouloir personnel. Ces lignes de Henri Barthes, je les commente ainsi. Définir le libre arbitre comme le simple fait de vouloir pour vouloir, c'est finalement ôter la causalité finale. Pour Aristote, il y a quatre causalités et la causalité finale, c'est la fin, c'est-à-dire ce qui ordonne toute chose sur Terre. La vie a un sens, nous sommes sur Terre in via, pour après la mort in patria, voir Dieu, nous sommes faits pour voir Dieu. Et de même, on pourrait dire, la liberté est faite pour s'exercer en vue d'une fin et pas simplement pour le choix du choix. C'est actuellement un principe éducatif tout à fait étonnant que de voir, j'exagère un petit peu, une quinzaine de confitures le matin pour l'enfant ou une quinzaine de yaourts. Et que veux-tu? Le yaourt à la vanille, au soja, à la crème, à ceci. Ah, il veut rien, il peut pas choisir. Et nous, adultes, la multitude de chaînes télévisées et de films. Une société qui promeut donc une liberté fondée sur un choix exponentiel, elle n'est pas ordonnée à une fin. Et donc, elle dilue l'homme dans un tourné en rond. C'est comme si nous avions un rond-point immense, géant, avec 1000 départs que nous pouvons pas choisir, parce qu'on ne peut pas les discerner les uns des autres, il y en a trop. Donc, le libre arbitre, pour Maritain, n'est qu'un moyen pour les hommes de se faire libre. Et Henri Barthes dit, c'est-à-dire de s'affranchir des servitudes qui pèsent sur eux. Les servitudes sont de deux sortes. Les unes tiennent à la condition même de créature, l'homme, parce que créé, est soumis à une loi qu'il n'a pas faite, et il ne peut surmonter cette servitude-là qu'en se divinisant, ou mieux, en se laissant diviniser par l'amour même qui l'identifie à la loi. La seconde série de servitudes vient de ce que l'homme est un animal. La personne humaine est engagée dans toutes les misères et les fatalités du corps, de l'hérédité, de l'ignorance, de l'égoïsme et de la sauvagerie des instincts. C'est donc en se civilisant que l'homme surmonte ces servitudes-là, et telle est la tâche propre de la vie politique. Mais dire qu'il y a pour les hommes des servitudes dont ils ont à s'affranchir, dire qu'ils ont à se faire libre, n'est-ce pas à dire qu'ils ont à devenir des personnes? C'est là l'enseignement de Jacques Maritain. Un homme est réellement une personne, mais comme il est au plus bas degré de la spiritualité, l'homme est aussi au plus bas degré de la personnalité. Il n'a en lui par nature qu'un germe de personnalité, que c'est précisément sa nature de développer. Maritain n'opposera jamais nature et culture, comme Rousseau par exemple. C'est la nature de l'homme que d'être un être de culture. Parce que c'est la nature de l'homme de développer la personnalité qui est en germe en lui. Et je cite Maritain, « L'homme doit réaliser par sa volonté ce que sa nature est en ébauche. Selon un lieu commun qui remonte à Pindare et qui est un lieu commun très profond, il doit devenir ce qu'il est. Et cela à un prix très douloureux et avec des risques redoutables. Il doit gagner lui-même dans l'ordre moral sa liberté et sa personnalité. Est-ce que vous mesurez, dans ces lignes écrites pendant la guerre, combien on n'est pas loin de Sartre et de Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir et Sartre vont dire « Il faut devenir ce qu'on est, c'est-à-dire le créer à chaque moment, à chaque jour, dans l'existentialisme est un humanisme. Sartre prendra l'exemple du coupe-papier. Et il dira, le coupe-papier a une essence. Il est déterminé en tant que coupe-papier. Et donc, il ne peut pas avoir de liberté. Il est un en soi. Il est un coupe-papier et il est coupe-papier à vie. Il n'a pas à devenir, à créer son être. Et Sartre va opposer à l'en-soi le pour-soi, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas une essence, il n'est qu'une existence, et il est en permanence une multiplicité de possibles. Il va être un devenir permanent. Du coup, on voit très bien comment peut s'articuler, par exemple, le fait qu'on devient homme et qu'on ne naît pas homme, et la théorie du genre sur laquelle Edith Butler va s'appuyer en relisant Simone de Beauvoir. Eh bien, cette théorie du genre ici, elle est, on va dire, écartée par quelque chose d'encore plus profond. C'est que l'homme a à devenir, bien sûr, ce qu'il est en germe, mais en gardant l'idée de finalité. Comme Maritain l'écrit, hein, c'est un lieu commun et très profond, il doit devenir ce qu'il est à un prix très douloureux et avec des risques. Pourquoi ? Parce que Maritain ne détachera jamais l'existence de l'essence. Cette vision du pour-soi et de l'en-soi qui oppose le coupe-papier à l'homme, elle est un peu, j'allais dire, caricaturale. Et on n'est pas automatiquement un devenir et automatiquement une essence déterminée. La subtilité de l'homme est bien plus profonde et c'est à cette condition-là qu'on peut articuler personne et liberté pour la politique. À partir du moment où on a vraiment défini la liberté de l'homme, on va se rendre compte que la culture, et dont la famille est le premier creuset, est fondamentale parce qu'elle doit orienter l'enfant vers sa conquête de la liberté. Comment ? Eh bien, en développant l'intériorité. Tout le traité sur l'éducation de Maritain ne vise qu'à développer en chacun, en l'enfant, en le petit homme, son intériorité pour que lui-même puisse faire advenir ce qu'il est, sa liberté de personne unique. Alors regardons le commentaire que propose Henri Barthes sur cette construction de la famille. Avant d'appartenir à la société politique, un homme appartient à une famille. Et il cite Maritain, « L'enfant appartient à la famille en ce sens qu'il en est membre, non en ce sens qu'il serait pour elle un objet de propriété. En ce qui regarde la destinée de son âme, l'enfant n'appartient qu'à Dieu. La famille n'a pas sur la conscience de l'enfant un droit en vertu duquel elle pourrait lui imposer les croyances qu'elle tient pour lier à son patrimoine et à sa cohésion de groupe social. Elle a le devoir de l'engendrer à Dieu et à la vérité, selon qu'elle les connaît. Et c'est à ce titre qu'elle a, de par la loi naturelle, le droit de l'élever dans ses propres croyances religieuses. La fin de la famille n'est pas seulement d'engendrer de nouveaux êtres, mais de les engendrer comme enfants d'hommes et de les élever spirituellement aussi bien que physiquement. Sous la diversité des formes et des coutumes particulières, partout et toujours, les hommes ont eu conscience de cette exigence de la loi naturelle. La fonction de l'école et la fonction de l'État en matière d'éducation ne sont ainsi que des fonctions auxiliaires à l'égard du groupe familial. Fonction auxiliaire normale d'ailleurs, puisque le groupe familial est incapable de fournir à la jeunesse tout l'ensemble des connaissances nécessaires à la formation d'un homme dans la vie civilisée. Alors comment comprendre d'une manière ultime cette liberté et cette articulée à la personne? Maritain revient dans L'homme et l'État sur la convergence pratique et il insiste sur le fait que le corps politique doit avoir pour point de mire ce plan pratique. Le corps politique a le droit et le devoir de promouvoir chez ses citoyens, principalement par l'éducation, le credo humain et temporel et essentiellement pratique, dont dépendent la communion nationale et la paix civile. Il n'a pas le droit, en tant que corps purement temporel et séculier, enclos dans la sphère où l'État moderne jouit de son autorité autonome, d'imposer aux citoyens ou d'exiger d'eux une règle de foi ou un conformisme de la raison, un credo philosophique ou religieux qui se présenterait comme la seule justification de la charte pratique dans laquelle s'exprime la commune foi, entre guillemets, temporelle ou séculière. L'important pour le corps politique est que le sens démocratique soit, en fait, maintenu vivant par l'adhésion des esprits, si divers soient-ils, à cette charte morale. Les voies et justifications grâce auxquelles cette adhésion commune est réalisée relèvent de la liberté des esprits et des consciences. Autrement dit, l'État n'a qu'un rôle pratique et c'est parce que chacun doit être respecté dans sa conscience personnelle, dans sa liberté et dans sa personne, que l'idéal démocratique porte sur un bien commun pratique. Et Maritain a fustigé finalement le manque d'idéal pratique des régimes totalitaires et des régimes fascistes. Un cran plus loin, Maritain va se s'interroger sur ce que ça veut dire vivre ensemble. Et vivre ensemble, pour Maritain, c'est bien sûr exister avec le peuple. Et dans exister, vous avez le mot fort de l'existence, qui est un peu le fil d'Ariane de toute la réflexion politique de Maritain. Mais vous avez avec. Exister avec le peuple va induire de pouvoir mettre dans cet avec quelque chose de très fort, qui est presque un échange, de pouvoir se mettre à la place de l'autre et du coup de pouvoir endosser la souffrance de l'autre. L'exister avec le peuple, qui est la définition de l'idéal démocratique, est traduit par Maritain comme un souffrir avec. Alors c'est très fort, on voit bien qu'il y a un appel évangélique, et voilà comment Maritain le traduit. Dès qu'il est question des réalités de l'histoire humaine, nous considérons volontiers les choses au point de vue de l'action. Il faut aussi et d'abord les considérer au point de vue de l'existence. Je veux dire qu'il y a un autre ordre, et plus primitif, que celui de l'activité sociale et politique. C'est l'ordre de la communion de vie, de désir et de souffrance. En d'autres termes, il convient de reconnaître, distincte de la catégorie « agir pour » ou « agir avec », la catégorie « exister avec » et « souffrir avec » qui concerne un ordre de réalité plus profond. Nous mesurons combien ces textes ont été écrits pendant la guerre, qui a servi de creuset à la réflexion politique. Agir pour, écrit Maritain, est du domaine du simple amour de bienveillance. Exister avec et souffrir avec est du domaine de l'amour d'unité. L'amour va à un être existant et concret. Quoi qu'en dise Blaise Pascal, il va à la personne, non aux qualités. L'être que j'aime, qu'il ait tort ou raison, je l'aime. Et je souhaite exister avec lui et souffrir avec lui. Exister avec est une catégorie éthique. Ce n'est pas vivre physiquement avec un être ou de la même façon que lui. Et ce n'est pas seulement aimer un être au sens de lui vouloir du bien. C'est l'aimer au sens de faire un avec lui, de porter son fardeau, de vivre en convivance morale avec lui, de sentir avec lui et de souffrir avec lui. Je ne sais pas si on mesure cet idéal profond de niveau. Il ne s'agit pas d'un agir qui est toujours superficiel, mais d'un exister. Et l'agir pour Maritain est enlevé de la sphère superficielle par la définition qu'il en donne. Il dira « l'action naît de la surabondance de contemplation ». Donc on mesure combien l'action n'est pas un simple précipité vers l'autre, assez superficiel, lui tendre la main le temps d'un moment. Maritain définit le souffrir avec comme un amour de la chose vivante et humaine. Avant de faire du bien et de travailler pour son bien, avant de faire ou de ne pas faire la politique de ceci ou de cela qui se réclame de son nom et de ses intérêts, avant de peser en conscience le bien et le mal qu'il faut attendre des doctrines et des forces historiques qui le sollicitent, on aura choisi d'exister avec et de souffrir avec, et de faire sienne sa peine et sienne sa destinée. On voit ici combien Maritain est moderne. Ce texte est extrait de Raison et Raison, un texte écrit en 1948, articulé sur les textes de la guerre. Et si vous êtes un peu lecteur de Ricoeur, dans Se faire le prochain, Paul Ricoeur écrit en commentant la parabole du bon samaritain que être le prochain de l'autre, c'est se faire le prochain, c'est dans Histoire et Vérité. Et vous avez exactement cette écriture ici. Il s'agit de souffrir avec, donc de se faire le prochain. Du coup, le mot « peuple » peut désigner la multitude tout entière. Il peut désigner les couches inférieures de la société. Ni l'une ni l'autre de ces deux définitions ne répond exactement au sens que le peuple a de lui-même. Le peuple apparaît en un sens négatif, comme la communauté des non-privilégiés, mais en un sens positif. Il est, croyons-nous, écrit Maritain, avec l'inévitable imprécision de frontières que comporte cette expression, la communauté centrée sur le travail manuel, qu'on appelle parfois les classes laborieuses. Entendons, la communauté constituée par la masse du travail manuel, ouvrier et paysan, et par les divers éléments qui se trouvent de fait, moralement et socialement solidaires de celle-ci. Je crois que l'idée du peuple telle qu'on l'entend aujourd'hui a parmi ses origines des sources chrétiennes et, si je puis dire, paroissiales. C'est l'idée du petit peuple de notre Seigneur, l'idée du peuple des pauvres, à qui les béatitudes sont promises et qui jouit d'une éminente dignité dans la communion des saints. C'est cette idée qui, gagnant peu à peu de l'ordre spirituel, où elle a sa place propre, à l'ordre temporel, et éveillant certaines virtualités de celui-ci, a contribué à former l'idée, éthico-sociale cette fois, et non plus religieuse, du peuple travailleur, laquelle n'est ni l'idée antique, plutôt civique et nationale, du populus, ni celle de la plebs. Autrement dit, le peuple qui travaille va retrouver dans le laborance quelque chose de l'adage bénédictin « laborare et orare », « travailler et prier ». Et vous voyez bien que c'est un idéal démocratique pour Maritain parce qu'il permet de donner à la personne sa profonde vérité qui est celle d'un souffrir avec parce qu'elle est un exister avec qui change le rapport à l'autre par le travail. Maritain écrira un texte splendide sur l'amour et l'amitié qui est édité après sa mort à titre posthume dans Approche sans entrave. Et je crois qu'on peut aller jusqu'à dire qu'un collègue de travail est déjà une relation d'amour déclinée dans son degré minimal parce que le travail est un lien fort. Il n'est pas du tout un gagne-pain interchangeable où il s'agit de profiter de l'autre. Voilà comment la société politique est pensée par Maritain.